à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caleçon. À Austerlitz, il se trimbalait avec son bicorne et sa redingote grise. On le voyait arriver de loin, une silhouette reconnaissable, entre mille.
Le 2 décembre 1805, à l'aube de la bataille d'Austerlitz, Napoléon Ier, le bicorne vissé sur la tête, convoqua ses maréchaux autour du feu.
Maintenant, messieurs, nous allons commencer une grande journée. Pils, qu'elle reste à jamais fixée dans tes dessins. Les images gagnent aussi des victoires, à leur manière.
La bataille de l'image, sans doute la plus grande victoire de Bonaparte. Avant-gardiste, dans la mise en scène de sa personne, sa silhouette est aussi célèbre que celle de Chaplin. Dès 1815, dans les goguettes et les gargotes de France, les souvenirs pullulent.
J'y étais.
Et Napoléon devient un mythe.
La charge des lots, le courage, le panache, le sang de mes frères. Vive l'empereur ! Vive l'empereur !
L'ombre portée de Bonaparte sur le 19e siècle est omniprésente. Héros récurrent du roman réaliste chez Balzac, Stendhal ou Victor Hugo, Napoléon incarne l'archétype fantasmé de celui qui a dompté son destin. Cette vérité légendaire a été nourrie par les chansons et le théâtre, au point que sa postérité artistique en a fait une icône. Mais n'est-ce pas le grand malentendu ? La vie de Napoléon n'est-elle pas avant tout l'expérience de la désillusion ? Sa captivité à Sainte-Hélène n'est-elle pas l'abîme du désespoir ? Depuis deux siècles, ces deux questions hantent nos mémoires.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série en 9 épisodes sur les traces de l'empereur.
Chapitre 8. L'empereur superstar.
Ce 8e épisode commence le 10 août 1792. Le jeune officier Bonaparte bagnaude dans un Paris enfiévré. Ce jour-là, il rend visite à Bourrienne, un ami d'enfance qui vit tout près du Louvre. Quand soudain, ils perçoivent dans la rue la foule réclamer la chute du roi. Et juste à deux pas, à l'intérieur du palais des Tuileries, Louis XVI se fait un sang d'encre.
Eh bien, monsieur Roederer, qu'est-ce que nous devons faire maintenant ?
L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que votre majesté s'y réfugie avec la famille royale, pendant qu'il en est encore temps.
Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir ?
Madame, tout Paris marche sous les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout.
L'arme en poing !
Sous la pression des fédérés, la famille royale se réfugie à l'Assemblée nationale.
Je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous.
C'est la fin de la monarchie.
Messieurs, la séance continue.
Intrigués par la cohue, Bonaparte et Bourrienne sont entrés aux Tuileries, où ils assistent dans la cour du Carrousel au massacre des gardes suisses par la foule parisienne. Bonaparte est écœuré par la violence. Mi-septembre, il demande un congé de semestre et il rentre en Corse. Capitaine d'artillerie, le voilà sans affectation. Son destin glorieux semble se dérober. Et plus encore, lorsqu'en juin 1793, Bonaparte et sa famille doivent fuir la Corse, accusés par les paolistes d'être des fauteurs de troubles.
Ils sont traqués, bannis, exécrés de leurs compatriotes. Leur sort repose entièrement sur les épaules frêles d'un jeune homme de 23 ans qui jusqu'alors leur a fait plus de tort que de bien.
Napoléon rejoint donc le continent et réintègre l'armée à Marseille, mais il s'ennuie. À la fin juillet, il est stationné à Avignon, où il se met à écrire un roman politique, Le souper de Beaucaire.
Ah, vos soldats ont bien dégénéré de l'armée de 1789.
Un dialogue entre des marchands provençaux et un jeune officier républicain.
Elle ne voulut pas, cette armée, prendre les armes contre la nation. Les vôtres devaient imiter un si bel exemple et ne pas tourner leurs armes contre leurs concitoyens.
Avec ces principes, la Vendée aurait aujourd'hui planté le drapeau blanc sur les murs de la Bastille relevée.
La Vendée veut un roi, veut une contre-révolution. La guerre de la Vendée est celle du fanatisme. La nôtre, au contraire, est celle des vrais républicains, amis des lois, de l'ordre, ennemis de l'anarchie et des scélérats.
29 juillet 1793.
Le souper de Beaucaire est édité et rencontre même un certain succès chez les Jacobins, notamment auprès du frère de Robespierre. Bonaparte a réussi son coup.
Et Napoléon se révèle à la fois comme un personnage, bien sûr, de politique, ce qu'il va devenir, mais également un grand romancier.
L'historien David Chantrane.
Bien entendu, le mouvement ensuite va l'emporter et il sera l'homme de Toulon, l'homme de Vendémiaire, et puis bien sûr ensuite des campagnes d'Italie et d'Égypte. Mais auparavant, il y a eu ces quelques semaines que l'on ignore souvent, et il a rêvé être une sorte de, alors je ne sais pas, Bernardin de Saint-Pierre ou un écrivain de la sorte, mais il a des accents un peu philosophiques qu'on retrouve dans ce souper de Beaucaire.
Qu'est-ce qui pousse Bonaparte à vouloir devenir romancier? C'est quoi le ressort du jeune Bonaparte à ce moment-là?
L'idée qu'il a, c'est d'être dans l'histoire, mais également de marquer l'esprit de ses contemporains. Et il est inconcevable à l'époque de séparer les deux aspects. On écrit parce qu'on est actif, et on est actif parce qu'on a su écrire. Et de la même manière que des personnages comme Vivant Denon, qui est un très grand écrivain, philosophe, Napoléon se rêve également dans le même esprit.
Peut-être ce qui pousse Bonaparte, David Chantrane, c'est aussi la société qui, à l'époque, empêche peut-être Bonaparte de voir plus loin pour son destin. C'est un moyen aussi peut-être pour lui de se dire « l'aristocratie d'Ancien Régime ne me permet pas de me projeter général pour l'instant, alors peut-être que je peux devenir romancier ».
Il y a de ça, effectivement, chez Napoléon, dans ses premiers temps. Il n'a pas d'affectation, donc il se dit qu'il y a peut-être un autre parcours à envisager. Mais il a vraiment des textes très intimes. Il écrit notamment sur le suicide. Et on voit bien d'ailleurs dans quel mouvement il s'insère. C'est à la fois ce mouvement de Chauderlot-Laclos, mais c'est également, d'une certaine manière, une sorte de préfiguration du romantisme. Et son destin à lui-même, mais c'est également sa façon de se comporter avec ses contemporains, c'est tout à fait romantique.
Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd'hui ? Du côté de la mort.
Entre 1793 et 1795, Napoléon Bonaparte a donc sérieusement envisagé de devenir romancier. Et il a écrit, entre autres, Clisson et Eugénie, un récit amoureux qui n'est pas resté dans les annales.
Napoléon.
Si Bonaparte n'a pas marqué de son empreinte l'histoire de la littérature, il n'en demeure pas moins qu'il a profondément nourri tous les romanciers du XIXe siècle. D'ailleurs, Napoléon surgit en même temps que la littérature dite moderne, au point que l'empereur des Français est devenu un mythe littéraire.
Alors ce mythe littéraire, il s'est construit très tôt. Il est fondé sur cette idée qui va être énormément reprise jusqu'au XXe siècle, que Napoléon Bonaparte est le type même du héros domptant le destin et ensuite vaincu par le destin.
Pascal Fautrier est docteur et agrégé de lettres modernes.
Mais c'est encore plus que ça, puisqu'en fait, cette idée du héros, c'est une idée ancienne qui remonte à l'Antiquité. Mais en plus de cette idée du héros, il y a l'idée que Napoléon Bonaparte incarne l'homme d'après la Révolution française, l'homme qui est né avec la Révolution française, c'est-à-dire celui qui peut construire son destin indépendamment de sa condition sociale de naissance. Alors ça va être énormément repris par les écrivains de la génération romantique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Napoléon Bonaparte va représenter la Révolution française, la possibilité de l'égalité, notamment pour le peuple. Alors il y a un texte fondamental de ce point de vue, c'est le texte de Balzac dans Le médecin de campagne, qui est publié en 1833, donc 10 ans après le mémorial de Sainte-Hélène. Et dans Le médecin de campagne, Balzac met en scène une veillée paysanne. Et au cours de cette veillée paysanne, un ancien soldat de la Grande Armée raconte la vie de Napoléon. Donc c'est une sorte de biographie de Napoléon Bonaparte racontée par un paysan soldat pour des paysans. Et c'est dans le chapitre qui s'appelle « Le Napoléon du peuple ».
Qu'attendez-vous, lisez.
Pour l'or, nous tombe tout maigrelet, général en chef de l'armée d'Italie. Nous étions 30 000 vanupiés contre 80 000 fendants d'Allemands, tous beaux hommes bien garnis que je vois encore. Alors Bonaparte nous souffle je ne sais quoi dans le ventre, et l'on marche la nuit, et l'on marche le jour, et l'on te les tape à Montenotte, on courte les Rossés, à Rivoli, Lodi, Arcole, Millésimo, Mantoue, et on ne te les lâche pas. Soldat prend goût à être vainqueur. Nous avions mangé successivement 3 armées et dégommé 4 généraux autrichiens. Les rois demandaient grâce à genoux, la paix était conquise. Un homme aurait-il pu faire ça? Non. Dieu l'aidait, c'est sûr. Mais les autres à Paris, voyant ça, se disent « Voilà un pèlerin qui a l'air de prendre ses ordres dans le ciel. Il est capable de mettre la main sur la France pour le lâcher sur l'Asie ou sur l'Amérique. Peut-être qu'il s'en contentera. » Ça était écrit pour lui comme pour Jésus-Christ.
Et véritablement, cette biographie d'une veillée paysanne, elle est, je dirais, oui, elle est presque la scène zéro du roman réaliste, on pourrait dire. Parce qu'elle vraiment, elle met en scène la vie d'un homme du peuple qui va devenir un grand chef, mais aussi le père du petit peuple. Et il y a l'idée que la grande armée aurait permis à n'importe quel paysan de devenir un officier et pourquoi pas même de devenir roi, c'est-à-dire de posséder une partie de ses terres conquises. Voilà, donc il y a vraiment un mythe là qui est un mythe même au sens où on est dans surnaturel. Quasiment, puisque ces paysans, donc ça se passe dans les années 1830, ces paysans pensent qu'on leur raconte des histoires quand on leur dit que Napoléon Bonaparte est mort en 1821. Ils ne croient pas à la mort de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on leur cache le fait que Napoléon Bonaparte est encore vivant, tellement ils sont persuadés que les gouvernements issus de la Restauration les trompent, et tellement ils pensent qu'on veut leur cacher qu'en fait l'homme qui représente la possibilité pour eux d'accéder à une égalité politique et à un destin libre, en réalité, est encore là et va revenir. Alors ça explique pourquoi le neveu de Napoléon Bonaparte a eu tant de succès politiquement en 1848, pourquoi il a été élu président de la République. C'était sur ce mythe. Balzac raconte quelque chose là qui est vrai, qui est un phénomène politique qui s'est produit dans le peuple. C'est-à-dire que ces soldats de la Grande Armée ont raconté partout les exploits de Napoléon Bonaparte et ont raconté qu'il était un demi-dieu et qu'il représentait la possibilité pour le peuple lui-même d'accéder à un destin politique et un destin tout court.
Ça, c'est important, Pascal Fautrier, parce que, pour être très précis, la gloire, notion fondamentale du XVIIIe siècle, était réservée aux aristocrates sous l'Ancien Régime. On essaie glorieux, la gloire était de naissance, hein, on était aristocrate. Or, la Révolution française sous-entend que la gloire peut être répartie pour tout le monde, c'est-à-dire c'est au mérite, ou la gloire pour la nation. Et Bonaparte incarne cette notion à la fois de gloire nationale et de gloire individuelle.
Alors, ce mythe littéraire, il va être construit par le romantisme avec 2 faces, finalement. C'est-à-dire une face qui est celle d'un destin ouvert à l'ensemble de l'humanité, quasiment, et dont Napoléon Bonaparte serait le représentant absolu. Donc un homme qui dompte le destin. Mais évidemment aussi, il y a toute la face sombre, c'est-à-dire que, finalement, Napoléon Bonaparte est vaincu. hein, puisqu'il est emprisonné par les Anglais, voilà, il finit sa vie à Sainte-Hélène. Bon, donc il y a tout l'aspect de la défaite. Et le romantisme, le premier romantisme, celui de Chateaubriand ou de Stendhal, mais que Hugo va prolonger, met surtout en scène l'aspect de puissance créatrice. Mais ce romantisme, il est aussi écrit par des gens qui sont un peu plus jeunes, qui n'ont pas vécu la période napoléonienne ou alors qui étaient enfants, comme Victor Hugo, par exemple, ou Balzac, qui naît en 1799 au moment du 18 Brumaire. Et cette génération va avoir la nostalgie de cette puissance créatrice, mais va surtout s'identifier aux vaincus de Sainte-Hélène. Et d'autre part, va construire des personnages qui, dans la nostalgie, s'identifient à Napoléon Bonaparte, mais qui n'ont pas les moyens, ni politiques ni personnels, de devenir un héros comme Napoléon Bonaparte et de devenir un génie. Alors c'est le cas particulièrement d'un personnage comme Julien Sorel, donc le héros du Rouge et le Noir de Stendhal. Donc là, c'est un livre qui est publié en 1830. Et Julien Sorel, sa lecture de chevet du jeune homme, qui est un fils de charpentier, c'est le mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz.
Bonjour, mon ami. Portez la malle de Monsieur Sorel chez lui. Ici, l'on vous appellera monsieur, ne l'oubliez pas. Et du sérieux, je vous prie. De la dignité. Arrêtez ! Capitaine Lafarelle de la garde impériale ? Ah ah, c'est la cantine du fameux oncle.
Oui, monsieur, je n'ai pas d'autre mal.
Vous l'aimiez beaucoup, votre oncle ?
C'est le seul homme qui ait été bon pour moi.
Vous aviez 10 ans, c'est votre excuse. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que c'était un voyou. Un officier de Bonaparte. Un voyou. À la solde d'un autre voyou. Vous venez ?
Oui, monsieur. Voyou toi-même.
Et c'était à partir de son identification à Napoléon Bonaparte qu'il va tenter de dépasser sa condition sociale de fils de charpentier. Et grâce à ses amours avec Madame de Rênal et puis avec Mathilde de la Mole, qui va tenter de dépasser sa condition d'origine. Et ça va échouer lamentablement, il va finir par tuer Madame de Rênal, donc par devenir un assassin. C'est le cas aussi, et on est plus de 30 ans après, c'est le cas aussi du héros du roman de Dostoïevski, Crime et Châtiment, qui met en scène Raskolnikov, qui est un jeune étudiant pauvre à Saint-Pétersbourg, qui cherche aussi à dépasser les limites de son propre destin d'étudiant pauvre, et qui va s'identifier à Napoléon Bonaparte, à la puissance et au génie de Napoléon Bonaparte, pour se donner le droit d'aller au-delà des lois humaines et de tuer la vieille usurière et de lui prendre son argent.
L'Office de Radiodiffusion Télévision Française présente Crime et Châtiment, le roman de Dostoïevski, adapté par Georges Govy.
Tous les grands hommes au cours de l'histoire n'ont pas agi autrement. Pour faire triompher leurs idées, ils n'ont pas hésité à recourir à la violence et au meurtre. À leurs yeux, les hommes du commun n'étaient qu'un troupeau qu'on guide ou qu'on sacrifie.
S'il en était ainsi, vos grands hommes ne se sont jamais considérés comme des criminels.
Non, bien entendu.
Alors, dans ce cas, n'avez-vous pas envisagé pour réformer la société ou sauver l'humanité de sauter le pas?
À cela, je vous répondrai que je ne me suis jamais pris pour un Napoléon.
Allons. Qui chez nous en Russie ne se prend pas pour Napoléon?
Donc, c'est vraiment deux personnages qui sont typiques de ces générations d'hommes qui vivent bien après le Premier Empire, qui s'identifient à Napoléon Bonaparte comme étant à la fois le modèle de l'homme qui peut construire son destin indépendamment de sa naissance, et en même temps qui est un modèle d'homme génial, d'homme audacieux, qui est capable d'aller au-delà des lois et même au-delà du bien et du mal. C'est ce qui va fasciner Nietzsche, par exemple.
Ce mythe littéraire, Pascal Fautrier, est-ce qu'il a des répercussions sur la construction de la virilité dans les deux siècles qui ont suivi la mort de Bonaparte ?
Alors absolument, il est un modèle d'accomplissement viril, Napoléon Bonaparte. En plus d'être un modèle universel d'accomplissement humain, et je dirais qu'il est évidemment d'abord un modèle d'accomplissement viril, même si on peut dire que Madame Bovary, la Madame Bovary de Flaubert, en quelque sorte, c'est la version féminine de l'identification à Napoléon Bonaparte. Et ça finit par un suicide, les femmes se suicident, les hommes deviennent des meurtriers. Raskolnikov et Julien Sorel sont des meurtriers, donc ça se termine mal. Le bovarisme masculin, ça se termine par le meurtre, le bovarisme féminin par le suicide. Mais c'est d'abord évidemment un modèle d'accomplissement viril et qui va durer au XXe siècle. Par exemple, Barrès va construire tout un roman autour du personnage de Napoléon Bonaparte qu'il va nommer un professeur d'énergie. Et toute une partie de la droite, pas seulement bonapartiste, mais conservatrice, voire de l'extrême droite et voire du fascisme au XXe siècle, s'est identifiée à l'aspect force, puissance du personnage de Napoléon Bonaparte, surhomme nietzschéen, bon, avec cette récupération par les idéologies conservatrices et fascistes du surhomme nietzschéen.
La radiodiffusion française présente une émission d'Emmanuel Bondeville, Vérités et chimères.
Le génie, jusque-là, c'était ingénium. C'était l'esprit.
Monsieur René Wig, conservateur en chef des peintures et dessins du musée du Louvre.
Le génie, maintenant, c'est le surhomme. C'est l'individu à sa puissance maxima. C'est l'homme qui dépasse et qui bouscule les règles, qui en a la puissance et donc le droit. C'est l'homme qui refait le monde à sa mesure, au lieu de se plier à la mesure du monde.
Résumons. Le fabuleux destin de Bonaparte fut aux yeux des romanciers réalistes du XIXe siècle un modèle d'accomplissement viril et un modèle d'accomplissement de soi, au-delà de sa condition sociale de naissance, le substrat idéal du héros romanesque. À cela s'est ajoutée la fascination des écrivains romantiques, fascination pour la puissance créatrice de Bonaparte, Victor Hugo en tête, à commencer par cet étrange monument qu'on croise à Paris dans Les Misérables.
Il y a 20 ans, on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la Bastille, près de la gare du canal creusée dans l'ancien fossé de la prison citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens et qui méritait d'y laisser quelques traces, car c'était une pensée du membre de l'Institut général en chef de l'armée d'Égypte. C'était un éléphant de 40 pieds de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour qui ressemblait à une maison, jadis peint en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peint en noir par le ciel, la pluie et le temps.
Alors, qu'est-ce qu'il faut y voir ? Dans cet éléphant de la Bastille.
Alors, l'éléphant en lui-même, c'est un roman. Parce qu'en fait, c'est un symbole qui vient de loin, qui vient notamment du XVIe, XVIIe siècle, et qui représente la souveraineté du monarque, la puissance du monarque. Et puis, au moment de la Révolution française, ce symbole change de sens. Il va représenter également la souveraineté du peuple. Et Napoléon Bonaparte, on peut dire qu'il tente de faire la synthèse entre ces deux symboles, c'est-à-dire la puissance de la souveraineté du type de celle de l'Ancien Régime, du pouvoir monarchique, qui est une puissance aussi sacrée, qui est une puissance divine, et puis la puissance qui naît avec la Révolution française, l'idée de la puissance du peuple et de la souveraineté du peuple qui naît avec la Révolution française. De ces deux figures de la souveraineté, Napoléon Bonaparte tente d'en faire une seule, et c'est évidemment pas pour rien qu'il va reprendre cette idée de faire bâtir un éléphant sur la place de la Bastille, en lieu et place de la prison de l'Ancien Régime. Et en fait, cet éléphant ne va jamais être terminé. Il n'y aura qu'une statue de plâtre complètement incroyable. Il faut imaginer cette espèce d'éléphant en plâtre qu'effectivement, Victor Hugo va mettre en scène dans Les Misérables.
En arrivant près du colosse, Gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire à l'infiniment petit et dit « Moutard, n'ayez pas peur ». Puis il entra par une lacune de la palissade dans l'enceinte de l'éléphant et aida les mômes à enjamber la brèche. Les deux enfants, un peu effrayés, suivaient sans dire mot Gavroche et se confiaient à cette petite providence en guenille qui leur avait donné du pain et leur avait promis un gîte. Il y avait là, couché le long de la palissade, une échelle qui servait le jour aux ouvriers du chantier voisin. Gavroche la souleva avec une singulière vigueur et l'appliqua contre une des jambes de devant de l'éléphant. Vers le point où l'échelle allait aboutir, on distinguait une espèce de trou noir dans le ventre du colosse. Gavroche montra l'échelle et le trou à ses hôtes et leur dit « Montez et entrez !»
C'est un symbole pour Victor Hugo qui a un rapport ambigu à la puissance de Napoléon Bonaparte qu'on retrouvera chez Stefan Zweig au XXe siècle, qui est un grand humaniste pourtant, qui n'a pas grand-chose à voir avec le personnage de Napoléon Bonaparte sur un plan humain. Mais cette idée qu'il faut des génies pour changer le cours de l'histoire et qu'il fallait un génie, une espèce de puissance créatrice presque monstrueuse avec ses côtés sombres pour faire naître la possibilité d'une souveraineté du peuple et peut-être un jour d'une égalité sociale. Donc cet éléphant, il représente ça dans Les Misérables. Et c'est pour ça que Gavroche se réfugie dans cet éléphant. Et comme je le disais aussi, on est au début des années 1830, donc avant la Révolution de 1848, et à ce moment-là, Napoléon Bonaparte est le fils de la Révolution, hein, c'est-à-dire qu'il représente la Révolution. Alors que, en réalité, bon, on peut considérer, et Stendhal lui-même d'ailleurs le pense, que Napoléon Bonaparte, au contraire, a détourné les principes de la Révolution pour construire ce que Stendhal appelle un despotisme. Stendhal caractérise comme despotique le régime du Premier Empire. Mais malgré tout, pour Hugo, il va rester fidèle à l'idée d'un Napoléon Bonaparte, fils de la Révolution. Et c'est une idée qu'on va retrouver au XXe siècle, y compris sous la plume d'historiens marxistes comme Georges Lefebvre, ou qu'on va retrouver chez Abel Gance. C'est-à-dire vraiment l'idée d'un Napoléon Bonaparte, fils du peuple, ce qui n'était pas le cas, hein, là on est vraiment dans le mythe, fils de la Révolution, et qui a accouché dans le tumulte, dans le bruit et la fureur, et qui en partie échoué, mais qui en même temps a ouvert la possibilité de la promesse d'un accomplissement de cette démocratie sociale républicaine, de cette égalité républicaine à laquelle Hugo rêve.
Je suis tombé par terre, c'est la faute de Voltaire.
Ne tirez pas, c'est Gavroche.
La nuit dans leur ruisseau, c'est la faute de Rousseau. Je ne suis pas terre. Je suis petit oiseau, c'est la faute de Rousseau. Je suis tombé sur terre. Ne sais pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant.
Gavroche!
Allô, allô.
Oui, bonjour, monsieur Marcheguet. Vous aviez demandé à Pierre Valeret une chanson qui s'appelle « Les fleurs en goguette ». D'où vient cette chanson pour vous?
Eh bien, j'ai la chance, monsieur, d'avoir eu une maman qui chantait, puisque c'était une famille où tout le monde chantait. Il tenait ça de mon arrière-grand-père, arrière-grand-père maternel, qui était tonnelier à Bercy.
Et le tonnelier, d'où tenait-il cette qualité?
Alors là, je crois qu'il tenait ça de son arrière-grand-père qui avait été un grognard sous Napoléon, qui avait fini sa carrière avec une balle dans la figure dans une bataille napoléonienne.
Le grognard fut un vecteur crucial de la légende napoléonienne, par ses récits chez Balzac, mais aussi par ses chansons. Auprès de publics qui n'avaient pas accès aux romans, comme les ouvriers, les paysans ou les artisans, les chansons ont joué un rôle déterminant dans la naissance de l'icône populaire après la mort de l'empereur. On chantait les souvenirs de l'épopée dans les goguettes. D'abord, ça ressemblait à quoi, ces goguettes ?
À l'origine, il y avait des sociétés de chansons, souvent d'ailleurs tournées vers des chansons licencieuses. On parle de sociétés épicuriennes, où d'ailleurs Béranger va commencer sa carrière.
Jacques-Olivier Boudon est historien et président
de l'Institut Napoléon.
Et puis, ces sociétés se développent et se transforment en ce que l'on va appeler des goguettes. Les goguettes, ce sont des lieux de sociabilité. On se réunit dans des cabarets où l'on boit, bien entendu, où l'on peut aussi manger, mais où surtout on chante. On chante à tour de rôle. C'est un peu le karaoké de l'époque, si vous voulez. On chante à tour de rôle les chansons à la mode. Et donc, ces goguettes se développent dès l'époque de la Restauration. Il y en a à peu près 300 vers 1820. On
en 300 en France ou à
300
Paris.
À Paris.
À Paris, rien qu'à 300 Paris, rien qu'à Paris.
300 rien qu'à Paris, 500 au début de la monarchie de Juillet, mais bien entendu, le phénomène se répand aussi dans les villes de province. Ce sont vraiment des lieux de sociabilité où il est interdit de faire de la politique, en principe, comme d'ailleurs dans tous les lieux de réunion à cette époque, mais naturellement, par le biais d'un certain nombre de chansons, on peut exprimer des avis, et il n'est peut-être pas rare d'évoquer à ce moment-là le fait qu'on était pour le petit. Qui est le petit ? C'est évidemment le petit caporal. On ne peut nommer Napoléon, car si on désigne Napoléon par son nom, on risque d'être repéré par les mouchards, donc les agents de la police qui circulent dans ces lieux. Mais naturellement, cela n'empêche pas qu'il y ait une expression du sentiment politique et du sentiment bonapartiste en particulier.
Le public des goguettes, Jacques-Olivier Boudon, c'est un public populaire, plutôt illettré, une culture de l'oralité en vérité.
C'est un public populaire composé d'artisans, d'ouvriers, pas nécessairement analphabètes, car une partie du monde ouvrier dans les villes sait lire et écrire. Et d'ailleurs, les chansons sont publiées et les volumes de chansons connaissent un très grand succès, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des bourgeois qui achètent ces recueils, mais aussi des gens du peuple. Mais effectivement, dans ces cabarets, on retrouve essentiellement des gens du peuple qui viennent aussi s'encanailler, quelque sorte, puisque ce sont des lieux de liberté où il y a un public essentiellement masculin, par ailleurs.
Et donc, dans ces goguettes, il y a deux chansonniers très célèbres à l'époque, à la fois Pierre-Jean de Béranger et puis Émile Debrot, qui vont donc véhiculer une image de Napoléon Bonaparte à travers leurs chansons dans ces goguettes. Est-ce qu'on peut commencer par les présenter l'un et l'autre rapidement ? Qui est Béranger ? Qui est Debrot, Jacques-Olivier Boudon ?
Alors, le plus âgé est Béranger, qui est né en 1780. Donc, il a commencé sa carrière déjà sous l'Empire. Il a fait partie de ce que l'on appelle le caveau, c'est-à-dire un de ces lieux de sociabilité où l'on chante, avant que ne se développent les goguettes. Debrot, lui, est plus jeune. Il est né en 1796, c'est un homme de l'Est. Donc, il ne commencera sa carrière que véritablement au début de la Restauration. Il est par ailleurs bibliothécaire à l'école de médecine. Béranger occupe aussi un petit emploi, mais vit essentiellement de ses chansons. Donc, ce sont deux hommes qui vont aborder, mais de manière différente, la thématique Napoléon. La particularité, c'est que Béranger, qui est le plus populaire des deux, le plus âgé, qui a déjà produit un certain nombre de chansons, y compris des chansons hostiles au régime de la Restauration, mettra beaucoup de temps à prendre en main Napoléon, alors que Debrot est l'un de ceux qui, le premier, va utiliser cette veine bonapartiste à travers, par exemple, une chanson sur la mort du maréchal Brune dès 1815, une autre qui va être une des plus populaires qui date de 1817, qui s'intitule « Te souviens-tu ?», qui met en scène un dialogue entre deux soldats réfléchissent à la grandeur de la France, font des allusions détournées, par exemple, à la conquête des pyramides, à la bataille des pyramides, et rappellent qu'il fut un temps où la gloire de l'armée française avait pu permettre au drapeau français de flotter sur l'Europe entière. Donc c'est par ce type d'allusion qu'on renvoie à Napoléon, sans nommer le personnage, mais en faisant des allusions à celui-ci.
Te souviens-tu de ces jours trop rapides où le français acquit tant de renom? Te souviens-tu que sur les pyramides, chacun de nous osa graver son nom? Malgré les vents, malgré la terre et l'onde, on vit flotter, après l'avoir vaincu, notre étendard sur le berceau du monde. Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?
Donc à ce moment-là, on ne parle pas de Napoléon, mais on parle d'éléments qui renvoient à Napoléon. On peut encore citer une chanson sur Mont-Saint-Jean, c'est-à-dire Waterloo, en 1818, qui fait écho d'ailleurs, et c'est intéressant parce qu'on parlait de littérature populaire, il y a aussi le dessin populaire, et c'est au même moment où l'imagerie d'Épinal est confrontée à la même difficulté. De quoi peut-on parler à propos de Napoléon ? Et les seules images qu'on laisse publier, ce sont celles qui font référence à des défaites, et en particulier à Waterloo, ou Mont-Saint-Jean, comme disent alors les bonapartistes, et plus généralement les Français. Pourquoi Mont-Saint-Jean, cela permet de mettre en avant l'héroïsme? Waterloo, c'est une défaite, certes, mais c'est une défaite, comme le dira Napoléon, glorieuse, et elle permet de mettre l'accent sur l'héroïsme des soldats de la Grande Armée.
Qu'est-ce que racontent les chansons de Béranger dans cette France de l'après-mort napoléonienne?
Alors, Béranger, à la différence de Debrou, lui, ne fait guère allusion aux grands événements de l'épopée napoléonienne. Mais il va s'attacher à des figures. En particulier, c'est une de ses premières chansons, La Vivandière, c'est-à-dire ce personnage féminin qui est très populaire dans l'armée. Il évoque aussi les exilés, c'est-à-dire ces officiers qui ont quitté la France et qui se sont réfugiés aux États-Unis. Il évoque les simples soldats, les sous-officiers. Et finalement, il est en communion avec son public, un public populaire qui se reconnaît dans ces figures qui renvoient naturellement à l'épopée napoléonienne sans qu'il soit besoin de citer Napoléon.
En 1840, Jacques-Olivier Boudon, Jean-François Costa, qui est sous-préfet en Corse, a écrit une chanson qui a connu ensuite un immense succès jusqu'au XXe siècle d'ailleurs, c'est l'Ajaxienne. Qu'est-ce que ça incarne, ce tube napoléonien, on peut l'appeler comme ça, cette fameuse chanson de l'Ajaxienne?
L'Ajaxienne a été rédigée, écrite au début de la Seconde République, donc en 1848, très peu de temps après l'abrogation de la loi d'exil des princes Napoléon, qui permet à Jérôme Bonaparte, le frère cadet de Napoléon Ier, à son fils également, le prince Napoléon, celui qu'on désigne sous le nom de Plomplon, de rentrer en France. Et Plomplon va arriver à Ajaccio puisqu'il se présente aux élections en Corse en 1848. Et c'est là qu'il entend pour la première fois cette chanson qui rend hommage à Napoléon, l'enfant du pays, donc qui exalte la figure de Napoléon.
Le fils prodige de la gloire.
Tout à fait. Mm-hmm. Et donc, cette chanson connaît un succès ensuite phénoménal, et jusqu'à ce qu'un des plus célèbres chanteurs corses, Tino Rossi, s'en empare. Ce sera un des clous des commémorations du bicentenaire de la naissance de Napoléon en 1969. Et dès que l'on va en Corse, on n'est pas à l'abri d'entendre encore aujourd'hui cette chanson.
Réveille-toi, ville sacrée, dans ton orgueil et ton amour, la sainte famille rentrée des exilés. Sont de retour les exilés, sont de retour pour les voici. Victoire, victoire, qu'ils soient fêtés dans sa maison. L'enfant prodigue de la gloire.
Cher Tino Rossi, si, comme nous l'a dit dernièrement M. Achille Peretti, Napoléon était le plus grand des Français, vous, vous êtes le plus célèbre des Corses. Je voudrais vous demander ce que, pour le petit Tino, le tout petit Tino Rossi, ce que représentait Napoléon.
Eh bien, d'abord, je dois vous dire que j'ai toujours aimé l'histoire. Et si vous me demandez de me rappeler quand j'étais gosse, pour moi, Napoléon, c'était un personnage de l'histoire. Moi, je ne voyais que Napoléon dans l'histoire, n'est-ce pas? Je le voyais au-dessus de tout, etc. Et deuxièmement, en tant que Corse et Ajaxien, j'avais en plus une affection, comme c'était un parent, n'est-ce pas? Puisqu'il est né à quelques pas d'où je suis né, d'où d'autres Ajaxiens sont nés. Alors pour moi, il y avait en plus cette tendresse, cette affection, en plus de l'admiration.
Quelles conséquences, Jacques-Olivier Boudon, auront ces chansons dans la société française du 19e siècle? C'est-à-dire que ça va alimenter, on imagine bien, la mythologie napoléonienne.
À l'époque de la Restauration, les chansons napoléoniennes sont des chansons subversives, c'est-à-dire des chansons qu'il est en principe interdit de chanter. Et donc, elles alimentent cette veine bonapartiste qui se consolide et qui fait, par exemple, qu'en 1830, le peuple de Paris aurait souhaité le retour de Napoléon II, qui est aussi toujours en arrière-plan dans ces chants napoléoniens. Et puis, au fur et à mesure du siècle, il est clair que les choses évoluent. Par exemple, autour de 1848, si l'Ajaxienne connaît un franc succès, beaucoup de chansons qui font allusion à Napoléon distinguent en Napoléon l'homme de la gloire qui a apporté des conquêtes à la France, mais aussi le tyran Honi, C'est par exemple le cas chez Charles Gilles, qui est un des chansonniers de cette époque. Et puis naturellement, avec le Second Empire, on voit aussi une censure très intense sur les chansons, qui épargne les chansons mettant en scène Napoléon, comme celle de Béranger, puisque Béranger continue à être chanté. Il meurt en 1857 et il a quasiment des funérailles nationales, tellement il est populaire. Mais on peut considérer qu'ensuite, finalement, la chanson bascule et perd ce caractère subversif qu'elle avait encore au début du XIXe siècle.
Au XXe siècle, les chansons furent moins subversives.
Le journal vous est présenté par Gilbert Denoyon.
À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée.
Jean-Marc Stricker, est-ce que le spectacle de Serge Lama au Théâtre Marigny est un spectacle à la gloire de Napoléon ou une comédie musicale dont le personnage principal est Napoléon?
Oui, dans les parties précisément assez comiques du spectacle, il y a tout de suite, je crois, il y a un des personnages qui confond tout Austerlitz 815... C'est
oui,
exprès,
oui,
ça.
C'est amusant, mais il y a un petit côté chansonnier tout le long du spectacle. On a essayé de faire un spectacle où il y a tout. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée, ça veut dire dans les dates. Parce que j'ai tellement lu de livres sur Napoléon, suivant que l'homme aime ou n'aime pas Napoléon, il interprète les événements et ils ont toujours les documents qui sont contradictoires. Alors c'est un personnage qui échappe complètement à tout le monde. C'est un personnage où la légende même a dépassé la vérité historique. Alors nous, on raconte les faits.
Serge Lama, je vous remercie. Comme on dit chez nous, tout doit se terminer par des chansons. Je vous propose de vous écouter. Maintenant.
Je crois en Napoléon, aigle tout-puissant, créateur au ciel et sur la terre, au duc de Rastatt, son fils unique, à Joséphine, sacrée puis répudiée, à la Sainte Trinité des îles, aux quatre évangiles selon la case, Montholon, Gourgaud, Bertrand, qui a souffert sous Hudson-Lowe, qui est ressuscité des morts, le 15 décembre 1840.
Le succès de Serge Lama tient d'abord au culte que Serge Lama voue à Napoléon lui-même. Il a toujours dit qu'il était un admirateur de Napoléon. Il a d'ailleurs été gaussé par la critique à l'époque. Il ne faut pas oublier que ce succès populaire n'a pas été accompagné d'un succès critique. Cela prouve tout simplement qu'il y a toujours un intérêt, une fascination des Français pour Napoléon, pour ce destin qui est celui de Napoléon, puisque c'est essentiellement l'ascension sociale que décrit le spectacle. Ce sont les mêmes ressorts qui vont jouer autour d'un public qui continue finalement à se passionner pour cette figure qu'est Napoléon. Le problème quand on met en scène Napoléon dans des spectacles, c'était vrai déjà des pièces de théâtre au XIXe siècle, c'est vrai des spectacles de Robert Hossein ou de Serge Lama par exemple, c'est qu'on est obligé de réduire, comme on a pu le faire à la télévision ou au cinéma, on est obligé de réduire et naturellement de forcer le trait. Il y a une forme de caricature en quelque sorte à travers ces mises en scène qui négligent la nuance et invite, en quelque sorte, à mettre l'accent sur précisément ce qui frappe, ce que le public veut voir aussi. Le conquérant, le sauveur de la France, etc. Et on ne mettra pas en avant d'autres éléments, parce qu'aussi, dans le spectacle, il faut qu'il y ait une forme de manichéisme et que le héros soit valorisé. Et donc, on ne met pas l'accent sur des aspects plus négatifs.
Au XXe siècle, donc, les chansons consacrées à Bonaparte furent soit un outil pour insister sur la réussite sociale du noblio corse, soit un moyen pour entretenir la nostalgie de l'époque napoléonienne. Il y a tout de même une exception, un geste contestataire.
Il y a un groupe, le groupe Berrurier Noir, qui a repris la petite comptine sur Napoléon.
Napoléon est mort à Saint-Denis, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine, en train de bouffer, et il est au cachot. Napoléon est mort à Saint-Denis.
Le groupe Berrurier Noir l'a repris, mais évidemment en détournant de manière plus sarcastique les propos. Déjà, la chanson à l'origine n'était pas très en faveur de Napoléon, mais chantée sur un mode punk, c'est encore plus décalé par rapport au mythe napoléonien.
Excusez-nous, le son est un peu crade. On essaie de faire avec. De toute façon, on s'en fout. Là.
This should be played at high volume, preferably in a residential area.
Terminons en mode rap.
Napoléon. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. Ouais, on l'a retrouvé assis sur une baleine, en train de bouffer les fils de son casson. Napo, 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 Napoléon. Ouais, Napo, 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 Napoléon. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine, en train de bouffer les fils de son caleçon. Napoléon.
En conclusion, Bonaparte fut un pionnier du culte de la personnalité. Napoléon a imprégné notre mémoire collective depuis 2 siècles. Il est l'incarnation de celui qui transcende son destin. Un chemin ouvert à toutes et à tous, quand toutes et tous, nous savons que l'histoire se termine mal. Étrange. Enfin, il est le dernier grand personnage historique dont nous n'avons pas la photographie. C'est important. Après lui, nous avons les photos de tout le monde. La reine Victoria, Victor Hugo, Georges Clemenceau, mais lui, non. Nous n'avons que des tableaux de son portrait.
Après la cérémonie, que David m'exécute le plus grand tableau qui existe, plus grand que les noces de Cana de Véronèse. Qu'il soit magnifique.
Or, au XXe siècle, Napoléon Bonaparte est le personnage historique qui est apparu le plus souvent au cinéma, plus de 1000 fois. Curieux paradoxe, l'homme dont on ne connaît pas le visage réel est venu hanter la pellicule du cinématographe. Notons cependant que le 7e art fut aussi l'art de l'irrévérence impériale.
Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série de Philippe Collin, réalisée par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Thierry Dupin, Romain Couturier, Hervé Evano. Avec la participation de Nicolas Lormeau, de la Comédie Française. Prochain épisode, qu'est-ce que le bonapartisme ? Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, est un podcast original de France Inter.